Radio Présence à Castelsarrasin 93.3.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Midi sur les antennes de Présence. Merci de votre fidélité. On va être très littéraire aujourd'hui dans ce Présence Midi, puisque dans quelques instants, vous pourrez entendre ou réentendre une heure de pointe qu'on vous avait proposée avec Nathalie Fournier, qui a écrit une BD qui s'appelle Nagasaki 1945, à la veille de la seconde guerre sino-japonaise vers 1930. Tagashi Nagai est un étudiant brillant et insouciant, fréquentant la prestigieuse université de médecine de Nagasaki. À la mort soudaine de sa mère et ses convictions athées et matérialistes chancellent, à l'ombre de la cathédrale d'Urakami et soutenue discrètement par Midori, la fille de ses hôtes, Tagashi se mine dans sa foi et se convertit résolument au christianisme. Vous entendrez donc cette histoire d'ici quelques instants, puisque ils seront au micro de David Torchala et de son équipe. Et puis, on retrouvera bien sûr le journal de la mi-journée à 12h30. Et puis, on va rester dans la littérature, puisqu'on est mercredi. Et là, on va encore parler de guerre, puisque dans Un jour, un livre, un auteur, l'invité, c'est Annie Olazabal, qui nous parlera de son père, qui était un passeur, qui faisait passer des Juifs en Espagne. Et de l'Espagne, ils allaient rejoindre l'Angleterre. Et là, il a fait passer plus de 300 personnes. Et on parlera de cette belle aventure. Juste après avoir écouté Gérard Lenormand, Les gens heureux.
La terre est une étoile, pour toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade. Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Nous, on t'offre un titre formidable. La ballade des gens heureux. On t'offre un titre formidable. La ballade des gens heureux. Et toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Et comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, eh bien, tu viens te chanter.
Radio Présence à Cahors 92.5.
Aujourd'hui, on va aller au Japon avec Nathalie Fourmi. Bonjour Nathalie.
Bonjour David.
Bon Nathalie Fourmi, vous venez d'éditer une bande dessinée magnifique, Nagasaki 1945. On va entrer avec vous à la découverte de cette bande dessinée. Et quand je dis on, c'est parce que nous sommes avec Anne Deloy. Bonjour Anne.
Bonjour David, bonjour Nathalie, bonjour à tous les auditeurs aussi.
Merci d'être fidèle pour cette chronique, toujours dans l'heure de pointe.
C'est toujours avec joie. Et puis là, je suis très contente qu'on parte au Japon et puis qu'on fasse un bond dans l'histoire pour mieux connaître toute cette période de 1945, tout ce qui s'est passé du côté d'Hiroshima et Nagasaki spécialement.
Et ça intéresse aussi Delphine Pereira.
Tout à fait.
Delphine Pereira, vous êtes journaliste pour le groupe La Dépêche du Midi, la nouvelle République des Pyrénées. Et donc, ensemble, on fait la connaissance de Nathalie Fourmi. Nathalie, vous éditez cette magnifique bande dessinée qui est là. Voilà, Nagasaki 1945. C'est aux éditions Plein Vent, une belle maison d'édition. Takashi et Midori Nagai, un destin brisé par la bombe, une vie offerte pour la paix. Takashi Nagai et Midori Nagai. Voilà deux personnes, deux personnages qui sont au cœur de cette histoire. Nagasaki 1945, comment avez-vous eu l'idée de faire cette bande dessinée et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Alors, bonjour à tous. L'idée, ce qui m'a amené à faire cette BD, d'abord, j'ai découvert le docteur Nagai à travers un livre qui s'appelle Les cloches de Nagasaki. Je l'ai découvert en 2016, le jour où j'ai, par hasard, entre guillemets, comme quoi il n'y a peut-être pas de hasard finalement, je cherchais un livre pour l'anniversaire d'une de mes sœurs sur un samouraï japonais. Est-ce que je commence? Bon, j'ai commandé quelque chose et ce qui est arrivé, ce sont les cloches de Nagasaki, donc rien à voir avec les samouraïs. On est en 1945.
Le libraire s'est complètement trompé sur la
commande. Je ne sais pas si c'est moi ou le libraire. Il y a des chances que ce soit moi.
Mais... D'accord.
et j'étais un peu déçue. Je me suis dit, mais c'est la Deuxième Guerre mondiale, ça ne m'intéresse pas. Mais bon, puisqu'il est là, je vais le lire. C'était aux éditions Casterman, 1954, bref. Et là, bah, pour moi, de fait, ça a été une bombe. J'ai été bouleversée par ce livre parce que ce qu'il en ressortait, alors il expliquait très très bien la bombe atomique, qui c'est une épreuve qu'il a traversée lui-même, hein. Il était à l'hôpital quand ça a explosé à 700 mètres, protégé par les murs en béton, enfin protégé relativement. Bref, il décrit ça d'une manière incroyablement vraie, vivante. On a l'impression d'être avec lui dans la pièce quand ça pète. Et c'est impressionnant, cet homme laïque, ce médecin, ce qui ressort de ce livre, ou en tout cas moi ce qui m'a touchée dans ce livre, qui décrit pourtant des horreurs, c'est la lumière et la joie de cet homme, et quelque part sa charité. Hein. Et c'est, voilà, c'est ça qui m'a touchée, qui m'a bouleversée, je me suis dit, il faut qu'on connaisse ce gars, il faut que la jeunesse d'aujourd'hui, les adultes aussi, le connaissent, parce qu'il nous... il nous donne de l'espoir, il nous donne envie de vivre et on a envie d'être comme lui.
Parce qu'en fait, c'est pas un personnage, c'est quelqu'un de réel qui a existé. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut aussi mettre l'accent, parce que c'est un personnage de bande dessinée, mais c'est une histoire vraie.
Voilà, tout à fait, c'est une histoire vraie. Donc le livre qu'il a écrit, c'est son autobiographie, qu'il a écrit dans les années 40, après la bombe. Et c'est un médecin-chercheur japonais qui s'est converti au christianisme au cours de sa vie, et qui était spécialiste des radiations. Ça tombe entre guillemets bien, hein, sans mauvais jeu de mots. Il était à Nagasaki au moment de la bombe atomique. Donc spécialiste des radiations au moment où il y a une bombe atomique, la deuxième bombe atomique de l'histoire qui explose. Voilà. Donc c'est un personnage historique.
Il n'y a pas de hasard. Finalement, comme vous le disiez tout à l'heure.
Revenons quand même à la genèse. Alors voilà, ce médecin Takashi Nagai, qui est au cœur de cette bande dessinée que vous écrivez, donc où l'inspiration vous vient de ce livre, Les cloches de Nagasaki. Pouvez-vous nous faire son parcours pour qu'on ait bien les repères et qu'on comprenne en quoi la bombe de 45 est une lumière pour lui et qui va changer sa vie. Normalement, une bombe, c'est quand même un synonyme de mort, quoi.
Oui,
et alors peut-être qu'il faudrait réexpliquer et revenir peut-être un peu sur sur son parcours.
C'est pas la bombe qui était la lumière de sa vie, et c'est évident que ça a changé quelque chose. Mais Takashi est quelqu'un d'assez original quand même pour un japonais. Il était japonais jusqu'au bout des ongles. Hein. Sa maman était d'une famille une vieille famille de samouraïs. Son papa était médecin japonais shintoïste, comme tous les japonais de l'époque. En tout cas la plupart. Japonais jusqu'au bout des ongles. Il s'est très brillant universitaire. Il a décidé d'être médecin comme son papa. Il a étudié à médecine occidentale. Et il était persuadé, en tout cas il baignait dans ce climat athée et puis très matérialiste de l'époque, donc lui il n'était pas du tout croyant, ni il respectait la tradition de ses pères, mais il ne croyait pas en un monde après la mort, jusqu'à la mort de sa maman, qui l'a bouleversé et qui a un peu fissuré ses convictions athées. Donc à partir de là, voilà, il s'est converti au catholicisme, et ça, c'est plutôt original pour un japonais.
C'est dans le regard, dans le regard aussi de sa maman, et ça, c'est la première image de la bande dessinée. On voit le regard de sa mère, et on dit que c'est à travers ce regard qu'il se sent bouleversé, c'est juste.
C'est tout à fait, c'est ce qu'il écrit en fait dans son livre quand il parle de la mort de sa maman et qu'il voit le regard de celle qu'il a aimé, il s'est dit ce n'est pas possible qu'après sa mort elle ne soit plus là. En fait, il y a quelque chose qui l'a dépassé en tant que scientifique, parce que il était vraiment, c'était un scientifique dans l'âme, hein. C'était un poète aussi, mais un scientifique. Lui, il ne voulait pas croire sans savoir quelque part. Et là, il a touché quelque chose qui l'a dépassé le jour de la mort de sa maman. À partir de là, il a commencé une réflexion qui l'a conduit plus tard à se convertir au catholicisme, qui était présent à Nagasaki de façon historique. Et puis là, ensuite, il a été très brillant dans la recherche qu'il faisait dans la radiation, et c'est un accident en fait qu'il a orienté vers ça. Lui, il voulait chercher, faire de la recherche en médecine clinique, et il a perdu l'audition, une partie de son audition, l'oreille droite.
Suite à la bombe.
Non,
non,
là on est toujours avant la bombe. Il a après une soirée un peu arrosée et puis une forte pluie.
Oui, on le voit dans la BD, ça.
Voilà,
j'ai vu ces images.
il perd l'audition. Il contracte une méningite, et suite à ça, voilà, il perd l'audition. Et il faut savoir qu'à l'époque, si on n'entend pas bien, on peut pas faire vraiment de la recherche poussée ou même de la médecine, parce qu'à l'époque on n'a que le stéthoscope en médecine occidentale pour faire des diagnostics. Voilà, donc Takashi là, c'est la première. Enfin, deuxième grosse épreuve, hein. Première, c'est sa maman qui meurt. Et puis là, lui qui était si brillant, qui était le lauréat de l'année de sa promotion au niveau de ses études en médecine, voilà, gros coup dur. On lui demande de se réorienter. Et la seule chose qu'on lui propose, c'est un peu un placard, c'est la radiologie à l'époque, qui est assez mise de côté par les Japonais, qui ne savent pas encore ce qui se passe au niveau des recherches de l'atome, justement en Amérique, qui avance beaucoup à grands pas à cette époque-là. Voilà.
Lui-même, il est originaire de cette région du Japon où il est venu là pour ses études, à Nagasaki. Alors, sa famille se trouve là, à Nagasaki aussi
ou... Oui, très très bonne question. En fait, il est né dans un petit village au nord-est d'Hiroshima, donc plus au nord. Mmh. Il est descendu à Nagasaki pour ses études, pour entrer en université de médecine. Donc, il avait une vingtaine d'années. Et on ne sait pas à l'heure actuelle pourquoi il a choisi Nagasaki, alors qu'avec ses résultats, il aurait pu choisir Tokyo, il aurait pu choisir des très très bonnes écoles. Voilà, Nagasaki, c'était plus provincial. Et c'est là qu'il est allé, et c'est là qu'il va de lui-même décider d'être logé dans une famille chrétienne, catholique, un quartier de Nagasaki qui s'appelle Urakami, qui historiquement est habité par des anciens chrétiens cachés. C'est les chrétiens qui étaient persécutés à l'époque au Japon. Et c'est là qu'il va vouloir être logé pour pouvoir un peu, entre guillemets, espionner ces catholiques dont il entend parler.
Ah, c'est le scientifique qui revient, voilà. Il est dans l'enquête.
Ah, c'est ça. Ouais. Et voilà, parce qu'il il est un peu intrigué par cette culture qui de toute façon pour lui est étrangère, donc a priori il faut s'en méfier. Et puis bon, il va découvrir la vie d'une famille catholique de l'époque au Japon, et il va rencontrer aussi dans cette famille sa future femme.
Ah, et donc c'est donc
qui est catholique.
Alors, à cette époque, il n'est pas encore catholique, mais sa femme est issue d'une des plus grandes, des plus anciennes familles de chrétiens cachés, persécutés pendant plus de 2 siècles et demi à Nagasaki. Nagasaki, qui est, en fait, on le sait depuis la moitié du XVIe siècle, les jésuites se sont installés en 1570 à Nagasaki. Un seigneur chrétien leur avait donné un terrain, et de là ils ont fait fleurir la ville. Ils ont aidé au développement de cette ville qui est devenue le berceau du christianisme au Japon. C'est là où d'ailleurs il y a eu les premiers martyrs, et c'est là où des centaines d'années plus tard vous avez la bombe atomique. C'est des coïncidences assez étonnantes, étranges, on va dire.
Donc il rencontre Midori Nagai, voilà, qui deviendra sa femme. On dit qu'à cette époque, il se plonge quand même dans les écritures de Blaise Pascal aussi.
Oui, tout à fait. Alors voilà, parallèlement à cette recherche et cette entre guillemets espionnage des chrétiens, Takashi continue. Voilà, il est bouleversé par la mort de sa mère et aussi par ce questionnement qui lui vient comme toute recherche. Lui, ce qui le motivait, c'était la recherche de la vérité dans la science. Mais aussi voilà à côté, donc il lit beaucoup, il parlait allemand, Takashi, et il lit aussi Blaise Pascal, parce qu'on lui enseignait à l'école que c'était Blaise Pascal, donc un père de la science, hein, mathématicien, inventeur de la seringue, inventeur de plein de choses, calculatrice. Il admirait beaucoup cet homme, et il était perplexe de voir que cet homme croyait en Dieu. Comment peut-on croire et être scientifique? Pour lui, c'était deux choses qui n'allaient pas ensemble. Et il ne savait pas que quelques années plus tard, ça allait être son tour, en fait. Voilà.
À quel moment ça bascule? Parce que là, on veut y savoir. Donc, il rencontre Midori, qui est sa femme. Et quand est-ce que ça bascule?
Alors, on va dire que... ça ne va pas basculer doucement, ce n'est pas ça. Mais il y a quand même une progression. Il y a évidemment la mort de sa mère, la lecture de Blaise Pascal, le fait qu'il soit mobilisé une première fois en Chine, en Mandchourie, pour se battre. Hein. C'est la deuxième guerre sino-japonaise, c'est l'invasion de la Mandchourie. Non, c'est pas l'invasion, c'est déjà la guerre au front en Chine. Il va rejoindre les rangs. Il est perturbé par l'attitude de ses pères, par rapport aux Chinois qu'il considère comme il ne comprend pas la présence du Japon en Chine à ce moment-là. Donc il a encore ses questionnements par rapport à politiquement à son pays, et puis alors que les Japonais sont très patriotes et Takashi est très patriote, mais il se pose des questions. Donc il revient troublé, et pendant cette période où il est à la guerre, Midori lui envoie un catéchisme. Et donc, son esprit scientifique va ressurgir. Il va étudier ça à la virgule près. Et en rentrant, il va être très étonnamment surpris. Et il va se dire, mais en fait, toutes les questions que je me pose, je trouve les réponses dans ce livre. Et en rentrant de cette première mobilisation en Chine, il va aller se confier à un prêtre. Et puis, il va demander le baptême. Après mûre réflexion. Donc c'est pas quelqu'un qui sur un coup de tête s'est dit tiens, je vais me convertir à cette religion bizarre. C'est quelqu'un qui a mûrement réfléchi sa décision, et c'est quelque chose qui d'ailleurs aura un prix, parce que voilà, au Japon, si à l'époque vous vous convertissiez au catholicisme, vous étiez rejeté par votre famille. Son papa n'a pas compris, il n'a pas compris sa démarche. Il a dit mais comment peux-tu faire ça? Et ça a été du coup assez dur jusqu'à la naissance du premier enfant de Takashi, qui a, on va dire, remis un petit peu de paix au milieu des relations familiales. Mais voilà, donc Takashi a dû faire face à ça, à ses épreuves aussi autour de sa conversion. Voilà, son baptême, il s'est ensuite marié avec Midori à l'église, et puis il s'est engagé dans la société de Saint-Vincent de Paul. Il allait voir les pauvres, il allait soigner, voilà, il s'engageait. Une fois qu'il est engagé, il s'engage à fond. Takashi, c'était plutôt un battant.
De l'humanité aussi, sans doute.
Tout à fait.
Ouais. Donc c'est l'histoire de cet homme, de ce couple et de ce qui va arriver en août et qui va totalement bouleverser sa vie.
Voilà, tout à fait. Alors ma BD, elle est plus centrée sur l'histoire de Takashi lui-même, parce que les sources que j'avais quand j'ai fait ce livre, c'était majoritairement les écrits de Takashi. Mais je voulais quand même que cette BD soit sur, pas que sur lui, mais sur Takashi et Midori, parce que quand j'ai lu Les cloches de Nagasaki, pour moi c'était évident que cet homme était porté par sa femme, en fait, hein, qu'elle était là derrière en filigrane. Il était très pudique, il en parlait peu, mais les mots qu'il employait pour parler d'elle, ou le peu de fois où il parlait d'elle, on comprenait qu'il était vraiment que c'était la moitié de son cœur, en fait, cette dame. Voilà. Donc c'est la BD, elle est sur ces deux personnages, sur ce couple.
Ce couple, du coup, qui explose au moment de la bombe.
Oui, alors il va être séparé par la mort. Alors je veux pas spoiler, mais bon, c'est vrai que effectivement.
Ah oui, on attend le moment où boum.
La bombe atomique, en fait, va. Alors ils auront plusieurs épreuves quand même. Leur vie est leur vie courte à ces deux jeunes gens. Elle est ponctuée d'épreuves. C'est là où c'est assez extraordinaire de voir que ce qui ressort de ses écrits, pour moi, c'est la joie, c'est l'humour, c'est la lumière. Après tout ce qu'ils ont vécu, ils ont perdu des enfants en bas âge, une petite fille de 3 ans, une autre de 1 an. Donc avant que la bombe explose, et avant que la bombe explose, Takashi, qui était donc chercheur en radiologie, a dû annoncer à sa femme qu'il avait découvert qu'il était atteint d'une leucémie lui-même. Donc il lui restait peu de temps à vivre. Et il annonce ça à sa femme, qui le prend avec beaucoup de courage. Et donc Takashi est rassuré. Il se dit, c'est bon, je vais pouvoir quitter cette terre en laissant mes enfants à cette femme si courageuse. Elle saura s'occuper d'elle. Ça, c'était son plan. Et puis le 9 août, quelques mois plus tard, la bombe atomique fait exploser tout ça. Et Midori est pulvérisé en même temps. Donc pour lui, c'est double peine, parce qu'il perd sa femme, il perd celle qu'il aimait tant, et qui va s'occuper de ses enfants, vu qu'il a une leucémie, qu'il lui reste quelques années à vivre, d'après les médecins. Voilà.
Quel destin incroyable de cet homme, le docteur Takashi Nagai. Urmi Nagasaki 1945, Takashi et Midori Nagai, un destin brisé par la bombe, une vie offerte pour la paix. C'est aux éditions Plein Vent. Nathalie Fourmi, nous on vous souhaite bon vent, vraiment, pour que cette promotion de voilà, que cette bande dessinée aille loin. On a suivi votre actualité, on a vu que vous étiez, vous donnez beaucoup de conférences dans les diocèses, dans les librairies, etc. Vous êtes très active, et aussi pour faire connaître la figure de cet homme, vraiment, ce médecin, le docteur Takashi Nagai, un destin incroyable. Peut-être le mot de la fin, pourquoi pensez-vous qu'il faille s'intéresser à cet homme ?
Bah, à l'heure actuelle, où on parle quand même beaucoup de guerre et où on ne fait pas qu'en parler, malheureusement, le message de Takashi vient de Takashi Midori, et un petit peu celui-ci, c'est de dire que pour faire la guerre, on a tous une bonne raison de vouloir faire la guerre, quel que soit le camp. Mais il y a cette troisième voie que Takashi nous propose, celle de la paix, que de deux côtés, dans toutes les nations, il y a des personnes qui sont prêtes à travailler pour une vraie justice et pour construire la paix sur Terre. Et bien ces personnes-là, qu'elles le fassent, Takashi, c'est ce qu'il a essayé de faire le temps de sa courte vie. Donc voilà, ce sera mon message.
Merci. Merci Nathalie Fourmi. Foncez en librairie Nagasaki 1945, une BD magnifique. On était ravis et heureux de découvrir cette bande dessinée. Un vrai trésor. Merci, et nous on se dit à bientôt.
À bientôt.
Merci.
Voilà, extrait d'une émission L'heure de pointe qui était dirigée par David Torchala et son équipe dynamique que vous pourrez entendre ou réentendre. Peut-être que vous l'avez déjà entendu cette émission, mais pendant l'été, on prend le temps aussi de réécouter le meilleur de notre programmation. Et le meilleur de notre programmation, on va rester un peu dans ces moments de guerre, puisque dans quelques instants, ce sera Annie Olazabal qui sera à notre compagnie d'un jour, un livre, un auteur. Et là, on parlera de son père qui était passeur et qui, du côté du Pays Basque, et qui faisait partie des Juifs du côté espagnol, et de l'Espagne, ils allaient rejoindre l'Angleterre. C'était bien sûr pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on parlera donc du livre qu'elle a écrit en mémoire donc de son papa qui s'appelait Le Passeur. On écoute ça après La Vie en Rose.
Présence à Moissac 93.3.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie.
Bonjour à tous. À Decazeville, en Aveyron, la rue Queyrade est passée en sens unique depuis hier. La mesure mise en place pour sécuriser la zone accompagne la déconstruction en urgence d'un immeuble vétuste menaçant de s'effondrer au 11 rue Queyrade. La circulation sera limitée au sens montant et ce jusqu'au 7 novembre. Stationnement et accès piétons seront restreints sur la partie haute de la rue. L'EHPAD public de Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne a reçu une excellente note de 3,59 sur 4 à l'issue de son évaluation réalisée en juin. Sur 157 critères, l'établissement a été salué pour la qualité de son accompagnement, ses innovations et son ouverture sur l'extérieur. 8 étoiles ont également été attribuées pour la valorisation de bonnes pratiques, la lutte contre le gaspillage et la qualité de vie au travail. À Toulouse, la rentrée s'annonce compliquée sur les routes. Entre la route de Revel, la route d'Albi, la Sépierre ou encore la grande rue Saint-Michel, plusieurs axes resteront saturés en septembre à cause des travaux du réseau express vélo et des chantiers de piétonnisation. Conséquence, des temps de trajet rallongés et des commerçants qui craignent une baisse de fréquentation. Bonne nouvelle toutefois, certains chantiers prendront fin d'ici le 1er septembre, comme sur la route de l'Onaguet ou l'avenue des Arènes romaines. À Condon, dans le Gers, des parkings vélos innovants font leur apparition en centre-ville. Dans le cadre du programme Commerce en selle, 8 stations arrêt-minute pour vélos ont été installées devant des commerces volontaires. L'objectif, faciliter l'accès des clients, encourager les achats de proximité et réduire l'empreinte carbone. Les structures fabriquées par l'entreprise gersoise Becky sont mobiles et rentrées chaque soir par les commerçants. Si l'expérimentation est concluante, le dispositif pourrait être élargi à d'autres villes et même au marché de plein air. À Lourdes, la mairie soutient les jeunes qui veulent devenir animateurs. La ville a lancé le dispositif BAFA Citoyen qui propose une aide de 300 euros pour financer la formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. En échange, les bénéficiaires doivent s'engager à réaliser 30 heures de bénévolat auprès d'associations locales et effectuer leur stage pratique prioritairement à Lourdes. Le dispositif s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, domiciliés ou scolarisés dans la ville, avec un quotient familial inférieur à 1 200 euros. Les candidatures sont à déposer avant le 26 septembre auprès de l'Info Jeune de Lourdes. Et enfin, la ville de Figeac, dans le Lot, invite les habitants à profiter de son jardin partagé au centre de loisirs de la Fédération Partir. Cosmos, lupin, zignas, chacun peut cueillir un bouquet dans le respect des fleurs et pour le plaisir de tous. L'initiative, portée par le service des espaces verts, a déjà séduit de nombreux Figeacois.
Merci beaucoup Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Le retour de l'actu, ce sera 13h avec toute la rédaction de Radio Vatican. On va replonger encore dans les souvenirs, et souvenirs malheureux qui étaient douloureux, et ceux de la guerre avec Philippe Noni, Diego Rabal. On va parler des gens qui faisaient passer les juifs du côté anglais en passant par l'Espagne.
Présence à Bagnères de Bigorre, 88.9.
Un jour, un livre. Un auteur, Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercase.
Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver le duo choc, Philippe Noni, Diego Arrabal, pour un jour un livre, un auteur. On va se glorifier. On peut dire que votre chronique littéraire, messieurs, eh bien, c'est pas une chronique littéraire qui est pénible à écouter. Au contraire, vous faites vivre les livres.
On fait vivre des livres.
Oui, tout bonjour à fait, Philippe Subercase,
bonjour Diego Arrabal.
Bonjour Diego, bonjour Diego,
voilà,
bonjour
c'est,
Philippe.
On va y arriver.
Cette fois-ci, c'est Diego Arrabal qui
sera... C'est Diego Arrabal, mais c'est comme ça, ça arrive. Bon, on a des livres, effectivement, comme vous dites, avec des thèmes extrêmement différents. Et aujourd'hui, on va parler quand même d'un thème qui s'est déroulé ici, qui va parler de ces êtres d'exception que parfois l'histoire a négligemment oubliés dans les plis de sa mémoire. L'homme dont nous allons parler maintenant en fait partie. Dans une période aussi troublée que troublante que fut l'occupation dans notre pays, cette personne a conservé sa boussole orientée vers la lumière. Comme bien d'autres, ce passeur a permis à des êtres en quête de liberté de rejoindre le général de Gaulle à Londres ou de mettre en sécurité des gens qui avaient simplement le tort d'être juifs. Pour mettre en exergue cet homme et rappeler combien lui doivent la vie, nous allons recevoir sa fille qui a écrit ce récit, le passeur, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne, publié aux éditions Confident. Bonjour Agnès Olazabal.
Bonjour à vous tous. Merci de me recevoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de présence pour évoquer avec nous l'histoire singulière de votre père, donc qui s'appelait Michel Olazabal, qui fut résistant dans les Pyrénées-Atlantiques durant la Seconde Guerre mondiale. Je vais lire la quatrième de couverture de votre récit et on en parle après.
D'accord.
Cet homme, Michel Olazabal, est un héros. Grâce à lui, 953 personnes ont pu, entre mars et juin 1943, fuir la France occupée pour passer en Espagne. Des pilotes alliés, des agents de renseignement, des juifs, des antifascistes allemands, des réfractaires du SETO, le service du travail obligatoire, des hommes et des femmes, parfois des familles avec enfants, qui tous ont pu franchir les Pyrénées au terme de marches aussi éprouvantes que dangereuses. Jusqu'à ce jour de juin 1943, où des Français collaborateurs enrôlés dans une unité militaire allemande ont intercepté un des groupes convoyés par Michel. Brûlé, celui-ci a dû passer en Espagne à son tour, d'où il a continué de travailler pour les services secrets français. Cet homme est un héros, et pourtant, cet homme dut porter jusqu'à sa mort le poids du plus terrible des soupçons, celui d'avoir trahi ce qu'il emmenait avec lui vers la liberté. Annie Olazabal, vous êtes la fille donc de Michel Olazabal, donc qui était passeur durant la Seconde Guerre mondiale. Comment avez-vous découvert l'histoire de ce père que vous ignoriez en partie durant votre enfance et votre adolescence ?
Eh bien, effectivement, je suis la troisième d'une fratrie de 11 enfants. Et j'ai grandi dans cette famille sans jamais rien savoir. Et le 11 novembre 1983, alors que je suis au travail, alors d'abord, il faut que je dise que mon père est décédé en 1982, le 11 septembre. Et le 11 novembre 1983, je suis au travail et mon frère m'appelle, un de mes frères m'appelle en pleurs. Il sanglote et il me dit « Papa est sur le journal ».« Papa est sur le journal ». Mais qu'est-ce que tu racontes, papa ? Il est mort, papa. Et je lui dis « tu es malade, où es-tu ? Je suis à la cabine, puisqu'on est en 1983 ». Et il me dit, il y a des photos de lui sur le journal et il y a deux pages. Donc effectivement, je me procure quelques minutes après le journal Sud-Ouest. Effectivement, je découvre des photos de mon père sur deux pages. Et le récit d'une résistante, Paul Lippmann, qui raconte sa vie de résistante et qui raconte qu'elle a travaillé avec Michel Olazabal, dont elle donne les photos, et trois frères basques. C'est comme ça que nous découvrons, en famille, que mon père était non seulement résistant, mais aussi passeur.
Comment vous expliquez, Annie Olazabal, qu'il y ait eu cette chape de plomb, ce silence, et que derrière, effectivement, ben, ça vous a amené à écrire ce livre, Le Passeur, aux éditions Confident, avec ce bandeau sur votre livre, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne. C'est pas une paille. Comment vous l'expliquez, ça ?
Alors, je crois que l'explication, elle est dans le nœud du livre, c'est l'affaire de Barcus. Parce que maman, quand on découvre que mon père était passeur, est encore vivante. Donc nous allons le soir même la questionner. Et elle se ferme et elle dit oui, il passait déjà en Espagne, mais c'était pendant la guerre. Oui, mais quand même, laissez tout ça, on en a assez souffert, ça va. Et plus on insiste et plus elle se ferme. Mais il faut que je dise que la dernière phrase sur cet article de journal, sur ces deux pages, nous harponne un petit peu, surtout le dernier mot. Paul Lippmann, cette résistante qui raconte, dit « Il se souviendra longtemps de sa dernière randonnée la plus cruelle ». Et ce mot « cruel » veut dire quelque chose. Nous questionnons maman, mais qu'est-ce qu'elle veut dire, Paul, quand elle dit « cruel » ? Qu'est-ce que c'est ? Et là, maman pleure. Donc on n'insiste pas et on décide en famille d'aller chercher. Surtout accompagnée d'une de mes sœurs qui a un an et demi de plus que moi, nous allons chercher. On va un petit peu aux archives, mais on ne sait pas s'y prendre, on ne sait pas chercher. Et je me souviens que mon père avait un ami qui était, lui, résistant. Mais enfant, Ça, c'est un souvenir d'enfance. Mais enfant, je ne savais pas ce qu'était qu'un résistant. Ça aurait pu être un métier, une nationalité, je ne sais pas, mais je sais qu'il était résistant et qu'il s'appelait Mazou. Donc, on est 40 ans après, en 83, et on se dit peut-être que ce Mazou, on pourrait le retrouver s'il est encore vivant. En 83, nous n'avons pas, comme maintenant, Internet, et on se met, on se partage la tâche, les uns font bière, peau, tarbe, bon voilà, et on cherche sur le bottin avec notre petit doigt, on se fait des grandes listes de Mazou et on appelle. Et là, à la question, est-ce que c'est vous qui avez connu Michel Olazabal, là, tout le monde nous dit non, pas nous, pas ma famille. Et à un moment donné, je trouve un Mazou sur Billère qui me dit « Oh, mon ami Michel, j'ai vu il y a 3 semaines 2 pages sur le journal, mais enfin on le met à l'honneur. » Et là, il comprend notre étonnement et je lui dis « Mais nous ne savions rien et maman ne veut pas raconter. » « Comment ? Il ne vous a pas raconté ?» Mais moi, j'étais un de ces chefs de réseau. Je vais vous dire tout ce que je sais.
Et vous commencez ce travail, et alors vous en parlez, hein, je vais lire en page 19 de votre ouvrage, donc Agnès Olazabal, Le Passeur, donc aux éditions Confident, ce que vous écrivez. Je manque un peu de courage. Ma démarche est gonflée. Je me présente comme une journaliste de la République des Pyrénées. Nous n'avons pas l'accent basque. Mais ces habitants de Barcus répondent à mes questions. Il raconte ce jour du 23 juin 1943 quand le jeune fils de la ferme a été tué et une trentaine de personnes relativement jeunes ont été arrêtées par une unité allemande. Des Allemands qui, au dire des villageois, parlaient tous français. À ce moment-là, nous ne comprenons pas trop et nous pensons à la milice. J'ose aborder la possible responsabilité du passeur. Au moment des faits, la question s'était posée, disent-ils, mais à présent, personne n'y songe. On a compris que Michel, qui revenait avec un autre groupe, avait été prévenu à temps par la ferme en amont et qu'il avait pu faire demi-tour et sauver ainsi le deuxième groupe. Les soupçons sont alors retombés assez vite, mais peut-être pas pour tous. Le patron du café nous indique la maison d'une femme qui a vécu de très près ce drame. Elle était proche de la famille qui a perdu son enfant. Lui rendons visite. Elle nous raconte ce qu'elle sait, nous confirme qu'un relent de suspicion envers Michel a plané longtemps dans certains esprits. Elle nous incite à rendre visite à Marie Lagune, la sœur du jeune homme, il s'appelait Jean-Pierre, assassiné en juin 1943. Nous nous présentons à la ferme, toujours en journaliste bien sûr. Marie était très jeune à l'époque, même pas 15 ans, mais elle se souvient très bien. Ce drame est imprimé à jamais dans sa mémoire. Question à Agnès Olazabal, là, quand je lis donc en page 19 et en page 20 donc, de votre récit Le Passeur aux éditions Confident, est-ce que vous pensez que, à travers ce que vous dites là, c'est la raison pour laquelle votre papa ne vous a jamais parlé de ses activités de passeur, parce qu'il pensait qu'à un moment donné, on aurait pu le mettre en cause et il n'aurait pas supporté que vous puissiez avoir l'image d'un père qui aurait pu trahir, ce qui n'est pas le cas quand, dans ce que vous racontez dans votre livre. Est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle votre père et votre mère ne vous ont jamais communiqué ce récit jusqu'à cet article de Sud-Ouest ?
Oui, c'est certainement, au départ, la première raison. Certainement. Mais il y a aussi le caractère de mon père, et bien sûr de ma mère, puisqu'on le découvre dans le livre, que il devait penser qu'il avait fait ce qu'il avait à faire. D'ailleurs, c'est les mots de ma mère. Mais pourquoi parler de ça? On a fait notre devoir. Il fallait, nous étions bien obligés, vous l'auriez fait. Et ça revient dans son récit. Donc, je pense que mon père a porté cette douleur toute sa vie, puisque nous trouverons en 79, nous trouverons une lettre, enfin le carbone d'une lettre qu'il écrit à quelqu'un qu'il appelle messieurs, donc ça doit être un organisme, mais nous n'avons pas, bien évidemment, les noms des destinataires. Et il dit, je chercherai 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, mais je trouverai. Donc cet homme-là, toute sa vie, tout seul, il a cherché. C'est dommage qu'il ne se soit pas fait aider par quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il a porté certainement ce voile, ce soupçon. Ma mère n'a jamais douté, mais ma mère étant native de Barcus, enfin Ordiap exactement, elle avait ses sœurs qui vivaient, ses nombreuses sœurs qui vivaient tout autour, qui étaient mariées ou qui travaillaient autour, qui lui avaient dit, surtout ne reviens pas à Barcus, hein, parce que là ça parle trop, on a été interrogé, on a eu trop peur. Et ma mère passera 40 ans sans revenir dans son village de Barcus.
C'est terrible. Hein. Alors pour les personnes qui prennent cette interview en cours de route, hein, on rappelle que nous recevons Annie Loizabal pour son récit Le Passeur, ce héros de la résistance qui a conduit 953 personnes en Espagne aux éditions Confident. Je vais lire un passage en page 103 justement quand vous en parlez, quand votre papa donc est contraint de quitter la France, hein, c'est en page 103 de votre ouvrage, oui. Vous écrivez donc au chapitre 3 « L'Espagne pour Michel ». Le 8 juillet 1943, après tant d'autres avant lui, Michel franchit la frontière. Il sait ce qu'il attend. Une période plus ou moins longue et pénible de détention, mais il n'a pas le choix. Le pays de Franco n'est pas une terre amie. L'occupation de la zone libre par les Allemands en novembre 1942 a provoqué l'exil de nombreux jeunes Français désireux de rejoindre l'Afrique du Nord pour fuir le service du travail obligatoire et reprendre le combat contre l'occupant. En janvier 1943, 3000 de nos compatriotes sont déjà en Espagne. 23000 vont suivre en 18 mois. L'ambassadeur à Madrid, François Pietri, fidèle au gouvernement de Vichy, a obtenu que ces hommes ne soient pas refoulés et remis aux Allemands, mais simplement internés. Le soin de s'occuper d'eux échoit à Monseigneur Boyer-Mas, prélat du pape, attaché culturel et chapelain de l'ambassade de France, délégué de la Croix-Rouge en Espagne. Celui-ci agit sous les ordres du colonel Malès, qui représente les autorités d'Alger depuis décembre 1942. En février 1943, Boyer-Mas obtient les premières libérations de Français internés. Le mois suivant, rallié officiellement au général Giraud, il s'installe dans les locaux de la mission officieuse d'Alger, Calier-San Bernardo. Les premiers départs massifs vers l'Afrique du Nord ont lieu à partir de mai 1943. En juillet, 1200 Français embarquent. La durée des séjours dans les camps des prisons espagnoles va baisser de façon spectaculaire. Le dernier rapatriement massif aura lieu en août 1944. 410 évadés de France embarquent sur un paquebot depuis Gibraltar, dont certains ont franchi la frontière à peine 5 jours plus tôt. Pour votre père, là, et pour votre mère aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une période très douloureuse. Elle ne sait pas où est son mari. Il n'y a pas d'internet à l'époque. Elle ne peut pas communiquer avec lui. Elle ne sait pas s'il est vivant. Elle ne sait pas s'il est mort. Elle ne sait pas s'il a été effectivement donc interné ou quoi que ce soit.
Oui.
Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons aussi pour laquelle votre mère n'en a pas parlé? Parce que pour elle, ça a dû être une souffrance terrible. C'est-à-dire qu'elle avait déjà des enfants. Elle devait effectivement s'en occuper, sans savoir si son mari, effectivement, était encore là. Comment vous avez pris, vous, le fait que votre maman, à un moment donné, ait refusé d'en parler? Est-ce que vous pensez que la souffrance qu'elle a ressentie durant cette guerre ait pu, à un moment donné, être une des raisons pour lesquelles elle n'a pas voulu, effectivement, évoquer ça avec vos enfants et qu'elle s'est fermée un peu comme une huître quand vous lui en avez parlé?
Oui, sincèrement, enfin, certainement que c'est la raison, parce que ce n'est que une fois qu'on lui met devant les yeux tous les témoignages des gens que nous avons recherchés, que là elle se libère et qu'elle parle. Et surtout après la première visite qu'elle va faire à Barcus, parce que nous l'amenons à Barcus. Elle est dans l'émotion la plus complète et franchement, c'est un des plus beaux jours de ma vie d'avoir pu ramener, d'avoir vu l'émotion de ma mère. ce jour-là. Enfin, elle était légitime là. Et je pense que voilà, se taire pendant toute cette période et garder ce silence, ça a dû être terrible. C'est pour ça qu'elle voulait pas nous parler. Alors après elle se libère. Après elle raconte. Mais elle nous dira, mais moi, vous avez dit, elle a des enfants. Oui, en 43, quand mon père est brûlé et qu'il est obligé à son tour de passer en Espagne, elle a une petite fille de 13 mois et elle est enceinte de 7 mois. Et là, ce jour-là, ce 23 juin 43, elle est prévenue par un chef du réseau haut placé à la préfecture qui vient et qui lui dit vite, vite, il faut partir, la Gestapo va arriver. Et alors là, bien évidemment, en femme brave, voulant faire son devoir, eh bien, elle va se laisser prendre en main, se laisser exfiltrer, elle ira accoucher à Toulouse dans une clinique clandestine sous un faux nom. Et elle passera 18 mois à attendre ce fameux signal que mon père lui avait promis de lui donner. Tu écouteras la radio et sur les ondes, si tu entends les cheveux de Michel Pousse, ça voudra dire que je suis en vie.
Et elle va entendre ce message. Voilà. Et elle va entendre ce message. C'est ça qui est très émouvant dans votre livre, voilà. Annie Loisabal, le passeur, oui. Là aux éditions Confident. Moi, c'est un livre qui m'a énormément touché parce que bon, c'est un livre aussi d'ici, hein, ça se déroule dans les Pyrénées-Atlantiques, hein, donc sur un endroit qui est là. Moi, j'ai une question. Ce récit que vous avez fait, Annie Loisabal, le passeur. Là, on a parlé de vos parents, on va parler des générations qui suivent, vos enfants. Est-ce que c'est pour eux que vous l'avez fait, pour qu'à un moment donné, cette mémoire soit conservée et cette volonté à un moment donné de transmission? Est-ce que c'est ça qui a été à l'origine de l'écriture de votre récit?
Alors, au tout départ, non, j'ai voulu aller à la rencontre de Michel, puisque je ne connaissais que papa, qui était tout un autre personnage. Mon père était un père très, très strict, très simple, très strict, je reviens sur ce mot, et je découvre, les gens découvriront dans le livre qu'il était un petit peu fêlé, comme on dit, hein, parce que il avait peur de rien et voilà, il croyait, il était sûr de réussir et il a foncé tout le temps. Donc,
rajouter d'autres par rapport à ça. Alors, on apprend une chose aussi dans votre récit que moi j'ai découvert. Je m'étais toujours posé la question de savoir comment on passait les Pyrénées, notamment quand il neigeait, quand il y avait du gel. Et puis on apprend que tous les passeurs faisaient passer les Pyrénées en chaussant des espadrilles.
Oui.
Ce qui n'a pas manqué, moi, de me surprendre, je vous avoue, parce que c'est vrai que quand je fais de la montagne avec des chaussures de marche qui puisaient dans la neige. Alors, moi, je connais la raison, mais je voudrais que ça soit vous qui nous l'expliquiez, la raison pour laquelle les passeurs chaussaient des espadrilles et faisaient chausser des espadrilles aux gens qu'ils faisaient passer. Allez-y, Annie Loisabal.
Alors, pas pour toutes, ils faisaient chausser les espadrilles, pas pour tout le chemin. Hein. Les témoignages m'apprennent que suivant le groupe qu'il avait, soit il avait un petit groupe que j'appelle actif, c'est-à-dire les témoignages nous apprennent qu'il met les alliés qui sont jeunes, costauds, entraînés, et puis les jeunes qui filent le STO. Ils étaient la veille chez maman, ils ont mangé, ils ont même pas 20 ans, donc ils sont solides, on peut leur en demander. Là, ils vont passer en deux nuits, mais parce qu'il les fait passer par le Pic d'Ory. Et au Pic d'Ory, il sait qu'il ne peut pas emmener tout le monde parce qu'il y a une petite barre rocheuse qui n'est pas très importante, mais qui est très dangereuse. Et les trois quarts du temps, quand il arrive à cette barre rocheuse, elle est verglacée. Et certainement que ce n'est pas mon père qui a inventé, qui a eu cette astuce. Je suppose que les passeurs devaient se passer toutes ces astuces-là, les partager. Et bien, à un moment donné, à la dernière, à la dernière cabane de berger qu'on appelle Cayola, juste avant d'arriver. Il est fait déchausser et mettre des espadrilles que, bien évidemment, un complice, un berger, aura porté régulièrement, voilà, plusieurs pointures, des dizaines de paires d'espadrilles, parce que l'espadrille, on est en grand 3. Donc, ça ne vient pas, c'est pas Made in China, hein, c'est fabriqué à Mauléon, avec de la vraie corde. De la vraie corde, donc, et cette corde, elle colle quand on met le pied sur la barre rocheuse, ça colle. Et ils nous décrivent dans leur récit, on est obligé à chaque pas de tirer parce que ça colle. Et c'est comme ça, ça leur sert de crampon en définitive.
C'est une astuce. Alors moi, je l'ai découvert, hein, je l'ignorais totalement.
Oui.
Et je dois vous avouer que quand je l'ai lu, je me suis dit ça. Voilà, il faut vraiment en parler, effectivement, au niveau de l'interview. Philippe Subercaz a une question à vous poser. Allez-y, Philippe.
Oui, vous parlez, bien sûr.
Voilà, vous parlez beaucoup de votre père, hein, de Michel, comme vous le dites.
Oui.
C'est aussi une histoire de couple, parce que voilà, l'homme aurait pu, ou le chef de famille aurait pu, effectivement, bien et c'est sûr. Ce qu'a fait votre papa, vouloir bien porter aide, mais c'est toute une famille qu'on met en danger, parce que lorsque la Gestapo débarque, elle ne faisait pas la différence entre le papa et le reste de la famille. Et donc, c'est aussi une histoire de couple. Et donc, votre maman aussi a accepté. Et elle est partie aussi en exil pendant quelque temps à Toulouse. Vous l'avez dit, là, je découvre, hein, parce que je n'ai pas lu le livre. Mais coup de chapeau aussi à votre papa, bien sûr, mais aussi à votre maman.
Mais ces hommes-là, dont, l'éditeur a voulu que je marque le mot héros sur la couverture. Oui, bien sûr, mon père a été un héros. Oui. Mais parmi tant d'autres, mais ces hommes-là, qui c'est qui les porte toujours? Eh bien, c'est les femmes.
Oui.
C'est les femmes. Sans les femmes qui étaient des agents de liaison exceptionnels sur leur petit vélo, qui portaient des messages « Attention, tel chef a été pris pour que l'équipe se mette au vert, vous allez avoir un parachutage tel jour, tel endroit. » Ces femmes qui, par exemple, quand les groupes étaient la journée, puisqu'ils ne marchaient que de nuit, quand ils étaient la journée cachés dans des granges, ces femmes-là allaient leur porter, pas des plateaux repas, non, mais la soupe avec du pain trempé ou du lait avec du pain. Ces femmes-là mettaient un torchon à une fenêtre pour signaler le passage est libre. S'il n'y a pas le torchon, ça veut dire que les Allemands sont dans le village ou dans le village à côté. Voilà. Ces femmes-là dont on n'a pas parlé, c'est les grandes oubliées de cette période.
Il y a eu, puisque vous en parlez, Annie Loisabelle, puisque vous en parlez, c'est vrai que quand on regarde durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'hommes décorés à l'issue de la libération. Il y a eu très peu de femmes décorées. Et j'ajouterai qu'on a tondu des femmes, on n'a jamais tondu d'hommes.
Non.
On aurait pu tondre des hommes, hein, puisque
il y en avait qui...
Voilà. Mais on a tout le temps reporté ça sur les femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les historiens, et notamment Robert Paxton, hein, qui est cet historien américain spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, a effectivement mis en lumière dans ses travaux, par rapport à ce que vous disiez, Philippe Subercaz, donc vraiment ces femmes... Voilà, qui ont été des héroïnes, alors qui n'ont pas participé au combat, etc. Mais effectivement, comme vous le disiez, Annie Olazabal, qui ont passé des barrages, qui ont porté des messages et qui risquaient leur vie autant
et
que les hommes.
Qui risquaient leur vie, voilà, mais en bien fait, sûr.
Et qui faisait vivre la famille, parce que c'est vrai que les hommes, bon, ils étaient au combat ou ils étaient en train de passer, mais il fallait regarder. Vous nous dites bien que votre maman avait un enfant, elle était enceinte, elle a dû partir et puis elle a dû gérer tout ça, le quotidien. Et c'est vraiment des actes aussi héroïques d'avoir fait ça et d'avoir accepté aussi, parce que voilà, on entraîne la famille dans une décision comme ça, toute la famille, enfants, femmes, et c'est vrai qu'il faut aussi que la compagne accepte.
Voilà, et c'est pour ça que moi je recommande vraiment à Annie Loisabal donc la lecture hein, de votre récit donc aux auditeurs et aux auditrices de présence d'un jour un livre un auteur hein, qui écoute nos chroniques littéraires depuis 11 années maintenant.
Et on va saluer bien sûr nos amis basques parce qu'avec le nom comme ça on a bien compris que c'était au Pays Basque.
On a compris que oui voilà c'est effectivement comme ça c'est typiquement un nom basque on n'a pas besoin de le dire. Hein, Annie Loisabal le passeur ce héros de la résistance qui a conduit 950 53 personnes en Espagne. Le terme héros, comme vous le disiez, c'est votre maison d'édition, donc les éditions Confident, hein, qui ont souhaité le mettre effectivement donc dans le sur le bandeau.
Et on voit sur la couverture le portrait de votre papa.
Le visage, alors, ouais. un visage dur. Hein, on voit bien que c'est une photo qui est prise pendant la guerre. Vous le mettez donc à l'intérieur, qui est prise donc durant la guerre. Alors on voit qu'il n'a pas beaucoup de cheveux. C'est pour ça que le message c'était Michel a les cheveux effectivement qui poussent.
Voilà, hein, les cheveux de Michel poussent. Voilà. Je voulais dire qu'il était vivant.
Qu'il était vivant. Voilà.
Mais puisque vous avez lu le livre, vous avez pu voir que la période espagnole, c'est-à-dire à partir du 23 juin.
Juin 1943.
Il passe, il n'est pas plus malin que les autres, il se fait prendre et il va être interné à Uberiaga de Ubilla. 2 mois après, il s'en évade, 2 jours après, on le retrouve à Madrid, mais là, il va travailler pour le Bureau central des renseignements et d'action, le BCRA. Et il va faire toute une autre mission, mais là, il va travailler avec une identité espagnole, il a des vrais faux papiers et une perruque. Il va faire Madrid-Toulouse pour aller chercher des hauts chefs. Il passera entre autres le neveu de De Gaulle, des ambassadeurs, des courriers.
Ce que je vous propose, c'est que effectivement le temps qui nous est imparti est arrivé. Est-ce qu'on peut faire une deuxième émission avec vous la semaine prochaine?
Avec plaisir.
C'est-à-dire,
et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre émission. Et parce que le sujet est tellement intéressant, vous allez nous raconter un peu. J'aimerais qu'on rentre aussi dans les coulisses. Hein, Philippe Nonny, vous qui avez lu le livre, un peu de toute cette organisation, des résistants, comment on devenait résistant, comment lui il a peut-être été approché pour qu'il le devienne, et puis prendre aussi à un moment cette décision.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Que les otages soient libérés et qu'un cessez-le-feu permanent soit conclu, la supplique.